vous est présenté par Antoine Marette. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Mathéo, bonsoir à tous. Steve Witkoff à Gaza, l'émissaire américain promet plus d'aide humanitaire au moment où la pression s'accentue sur Israël face aux pertes humaines dans le territoire palestinien affamé. Le président du Salvador pourra se représenter indéfiniment. Les députés ont adopté une réforme constitutionnelle à une écrasante majorité qui ouvre la voie à une présidence à vie. La fin d'un monopole vieux de 16 ans. Désormais, les utilisateurs de téléphones qui fonctionnent sous Android pourront accéder à un autre magasin d'applications que celui de Google Play. C'est ce qu'a décidé la justice américaine. Et puis à la fin de cette édition, nous lèverons les yeux au ciel pour la 35e nuit des étoiles qui démarre ce soir. Vous saurez comment vous équiper pour mieux les admirer. En pleine catastrophe humanitaire à Gaza, Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump au Moyen-Orient, s'est rendu sur place ce matin après une première visite en janvier. En compagnie de l'ambassadeur des États-Unis en Israël, ils sont allés à Rafah, dans le sud de l'enclave palestinienne, pour visiter un centre de distribution d'aide tenu par la très critiquée Fondation humanitaire à Gaza, opérationnelle depuis fin mai, et alors que l'ONU alerte sur la menace d'une famine généralisée à Gaza. Bonsoir Sandrine Etohandeg, que sait-on et qu'a-t-on vu de cette visite ?
Cette visite a duré plus de 5 heures, c'est ce qu'a indiqué Steve Witkoff sur X. Apparemment, pas de médias, pas de journalistes, avec pour seules images 6 photos postées sur le réseau social par l'envoyé spécial de Donald Trump et par Mike Huckabee. On les voit gilet pare-balles sur la poitrine, une casquette « Make America Great Again » vissée sur la tête de Steve Witkoff, tandis que l'ambassadeur américain en Israël porte, lui, un casque militaire. Dans un post, il raconte qu'après un briefing des forces de sécurité israéliennes, les deux hommes ont, je cite, « discuté avec les gens sur place ». La Fondation humanitaire à Gaza a distribué plus de 100 millions de repas depuis son installation, s'enthousiasme Mike Huckabee. Mais les Nations Unies et les ONG sur place alertent, elles, sur la famine et la malnutrition des enfants notamment. Selon un rapport de l'ONU publié ce matin, près de 1380 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne à Gaza en venant chercher de l'aide, la plupart à côté des sites de la Fondation humanitaire à Gaza.
Et alors à quoi doit servir cette visite éclair ?
Alors, l'objectif de cette visite, écrit Steve Witkoff sur X, était, je cite, de fournir au président américain une compréhension claire de la situation humanitaire et d'élaborer un plan visant à livrer de la nourriture et une aide médicale aux habitants de Gaza. Les deux hommes doivent faire un compte-rendu au président américain qui annoncera les détails de ce plan quand ils seront validés, a précisé la Maison-Blanche. Auprès de la chaîne CNN, Bassem Naïm, un ancien ministre de la Santé du Hamas, a commenté ce déplacement en ces termes. Monsieur Witkoff n'est pas une bête de foire qui a besoin de se mettre en scène dans une visite pour prendre quelques photos personnelles devant les pièges mortels surveillés par vos entreprises américaines.
Merci à vous, Sandrine Etohandeg. Face à l'urgence absolue, nous venons de conduire une opération de largage de vivres à Gaza. Emmanuel Macron l'a annoncé dans un message sur le réseau social X en début d'après-midi. Remercions les partenaires jordaniens, émiriens et allemands pour leur appui. Le chef de l'État précise que ces largages ne sont pas suffisants. Alice Moreno, sur le terrain, les Gazaouis alertent eux-mêmes sur le danger de ces largages que ces largages représentent.
Depuis quelques jours, chaque État se targue de larguer des dizaines de tonnes d'aide dans l'enclave. C'est au tour de la France aujourd'hui, vidéo à l'appui postée sur les réseaux sociaux où l'on voit les cargaisons parachutées depuis un avion de transport militaire. Le gouvernement espagnol a posté une vidéo similaire sur fond de musique épique. Mais sur le terrain, ces largages se révèlent dangereux. Mohamed est réfugié dans le camp d'Al-Mawassi au sud de l'enclave. Il redoute que des cargaisons s'écrasent sur des tentes dans une zone particulièrement peuplée.
On voit les avions arriver à basse altitude et c'est très difficile d'apporter l'aide ainsi à Al-Mawassi. Il y a un très grand danger pour tous les déplacés du camp. Le problème, c'est qu'il y a des gens partout dans le camp et que ça s'étend sur seulement une poignée de kilomètres.
Une aide dangereuse et difficile d'accès, rappelle Eyad Alamaoui, directeur d'un groupe d'ONG local à Deir el-Bala.
L'épuisement a pris le dessus, alors que des milliers de personnes tentent d'atteindre ces largages éparpillés. Les gens parcourent de longues distances dans le sable, les gravats et dans des zones dangereuses, simplement pour être au bon endroit au bon moment quand les parachutes atterrissent.
Il dénonce une humiliation supplémentaire pour la population de Gaza et appelle à une entrée massive de l'aide par les terres.
L'administration Trump veut imposer au monde ses règles commerciales et le Canada n'échappe pas à la nouvelle salve tarifaire. Depuis ce matin, les droits de douane sur certains produits canadiens grimpent à 35%. Le Premier ministre Mark Carney s'est dit déçu de cette tournure des événements. Il affirme que son gouvernement espérait éviter une telle escalade après plusieurs semaines de négociations restées sans issue. À Montréal, la correspondance de Nafi Alibert.
Pas de répit pour le Canada. Contrairement au Mexique qui a obtenu un répit de 3 mois, les droits de douane américains sur certains produits canadiens sont entrés en vigueur cette nuit, passant de 25 à 35%. Alors le Premier ministre canadien Mark Carney s'est dit déçu, mais il estime qu'il vaut mieux ne pas avoir d'accord que d'accepter un mauvais compromis. Il a aussi relativisé les impacts de ces nouvelles surtaxes, puisque le décret de l'administration Trump concerne uniquement les droits de douane imposés en mars. Dans les effet, seulement 10% des exportations canadiennes vers les États-Unis sont concernées, celles qui échappent à l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Mais plusieurs voix du secteur manufacturier et des affaires rappellent que c'est l'incertitude qui pénalise surtout les entreprises. Certains secteurs, comme l'acier et l'aluminium, sont d'ailleurs durement touchés par cette guerre commerciale. Le Premier ministre a réitéré qu'il protégerait les emplois à risque. Pendant ce temps, les négociateurs canadiens, eux, sont toujours à Washington. L'espoir d'un compromis subsiste, alors qu'en parallèle, Ottawa mise également sur la diversification de son économie et la résilience intérieure pour renforcer sa position.
Puis sachez que le dollar chute lourdement après les mauvais chiffres de l'emploi aux États-Unis en juillet. Le taux de chômage a progressé de 4,2%. Les créations d'emplois ont aussi fortement baissé à 73 000 en juillet. C'est moins que ce qu'attendaient les analystes. Conséquence, la devise américaine recule de 1,4% par rapport à l'euro qui s'échange désormais contre près d'1,16 $. Le président du Salvador, Nayib Bukele, pourra se représenter indéfiniment. Décision du Parlement de ce pays d'Amérique centrale. Hier, les députés ont adopté une réforme constitutionnelle à une écrasante majorité. Ce texte ouvre la voie à une présidence à vie. Il prévoit également d'abolir le second tour du scrutin et d'allonger la durée du mandat de 5 à 6 ans. Depuis quelques années, on assistait déjà à une dérive autoritaire du pouvoir au Salvador. Mais Rosalia MacArthur, cette réforme est un véritable tournant.
Et le président du Salvador, Nayib Bukele, l'assume totalement. À 44 ans, il se décrit lui-même, non sans ironie, comme le dictateur le plus cool du monde. Arrivé au pouvoir en 2019, il a été réélu l'an dernier.
Une grande partie de la population adore Bukele.
Sa popularité, Bukele la doit à la guerre sans merci qu'il mène contre les Maras, ces gangs qui terrorisaient le pays, précise Thierry Maire, sociologue affilié au centre Maurice Albach.
Pour les gens humbles qui, tous les jours, prenaient le bus, tentaient de sortir de leur quartier ou de faire que leurs gamins puissent avoir quelques bouts de loisirs, c'est beaucoup plus important que les grandes déclarations lyriques des organismes internationaux ou des analystes que nous sommes sur « mais le respect des droits, mais les droits de l'homme ».
Alors que le Salvador était l'un des pays les plus violents au monde, le taux d'homicide est tombé à un niveau historiquement bas. Mais derrière ce succès, on assiste à un durcissement sécuritaire.
Monsieur Bukele contrôle aujourd'hui la totalité des pouvoirs, aussi bien sur le législatif bien sûr, sur l'exécutif évidemment, mais même aussi sur le judiciaire.
Les ONG dénoncent le régime d'exception en place depuis 3 ans. 87 000 arrestations, souvent sans mandat, des centaines de morts en prison et des dizaines de journalistes et d'activistes humanitaires contraints à l'exil. Une situation inédite depuis les accords de paix de 1992 qui avaient justement interdit toute réélection présidentielle. En ouvrant la voie à une présidentielle à vie, Bukele transforme son triomphe électoral en concentration inédite du pouvoir. Aujourd'hui, la démocratie est morte au Salvador, déplore une députée de l'opposition.
En Ukraine, l'armée russe a accéléré sa progression en juillet pour le quatrième mois consécutif. Elle a réalisé ses plus larges avancées depuis novembre, selon l'analyse par l'AFP des données fournies par l'Institut américain pour l'étude de la guerre. Et c'est dans ce contexte que Vladimir Poutine assure vouloir une paix durable en Ukraine, tout en affirmant que les conditions de paix proposées par Moscou, à savoir que Kiev cède des territoires et renonce à l'OTAN, ces conditions restent inchangées. C'est un revers de taille pour les géants américains Google. La justice américaine a tranché. Désormais, les utilisateurs de téléphones qui fonctionnent sous le logiciel Android pourront accéder à un autre magasin d'applications que celui de Google Play, installé automatiquement par les fabricants de téléphones. Bonsoir Marie-Aimée Copleutre.
Bonsoir.
C'est un bouleversement pour Google qui perd ainsi son monopole qu'il détenait depuis 16 ans.
Depuis 2008, Google oblige chaque utilisateur de smartphone Android à utiliser son magasin d'applications, le Google Play Store, pour installer une boîte mail ou encore un réseau social. Ce modèle qui permet à Google de prélever une commission de 30% sur chaque achat effectué dans l'une des applications est au détriment des développeurs et créateurs de ces applications. Un monopole qui n'est pas nouveau dans la technologie américaine. Microsoft, par exemple, a longtemps imposé Internet Explorer comme moteur de recherche par défaut, au détriment de ses concurrents Firefox, Opera, Safari ou même Google Chrome. Une situation qui a d'ailleurs pris fin en 2024 avec une loi européenne. Désormais, c'est Google qui doit se plier aux règles et permettre à chaque utilisateur Android d'accéder à Epic Game Store, le principal concurrent de Google Play Store. C'est d'ailleurs Epic Game Store, cette entreprise américaine de jeux vidéo qui a lancé ce combat judiciaire il y a 5 ans, traînant devant les tribunaux Google, mais aussi Apple, également en position de monopole avec son App Store. Apple a perdu en mai dernier, maintenant autour de Google. Les deux entreprises américaines fustigent ces décisions, dénoncent un risque pour la sécurité des utilisateurs. Google souhaite déposer un recours à la Cour suprême des États-Unis, procédure qui peut prendre plusieurs années. En attendant, l'entreprise est contrainte d'appliquer cette décision de justice.
Merci Marie-Aimée. Dans l'actualité française, le parti lancé par Emmanuel Macron va une nouvelle fois changer de nom. La République En Marche, puis Renaissance, se cherche une nouvelle dénomination, la quatrième en 9 ans d'existence. Et le patron du parti, Gabriel Attal, lance pour cela un chantier avec une vaste consultation de ses adhérents, qui serait 33 000 selon le parti. Ils ont reçu hier soir un questionnaire. Bonsoir Mélanie Kuzelevitch.
Bonsoir Antoine, bonsoir à tous.
En tournant la page de Renaissance, Gabriel Attal n'est-il pas en train de tourner tout simplement la page du macronisme?
Quand vous parlez du parti autour de vous ou sur le terrain, utilisez-vous spontanément le nom Renaissance ou encore diriez-vous que le nom Renaissance est distinctif et facilement identifiable au sein du paysage politique français? C'est ce qu'on peut lire dans le questionnaire de 2 pages envoyé hier soir aux adhérents. Des questions plus que rhétorique, dans la mesure où seulement 30% des Françaises interrogées sont capables de reconnaître le parti et seulement un sympathisant sur 2, selon un sondage commandé par Renaissance. Le constat est là, nous sommes mal identifiés, explique l'entourage de Gabriel Attal. On nous confond parfois avec le parti d'Éric Zemmour. C'est embêtant, confie une membre de Renaissance. Mais chez les militants, cette consultation provoque un sentiment mitigé. Marre de changer tout le temps de nom, on n'est pas une boîte de pub, s'insurge un référent régional qui admet quand même que Renaissance, ça ne marche pas du tout. Gabriel Attal est lui-même partagé, assure ses proches. C'est pour ça qu'il consulte, mais le nouveau patron du parti aux ambitions présidentielles ne s'en cache pas. Il veut bâtir un nouveau mouvement et un nouveau projet. Changer de nom, c'est aussi une façon de signer une rupture avec le macronisme. Mais pour le moment, pas d'obligation de résultat, avance Renaissance. Un premier bilan sera fait à la rentrée du parti en septembre prochain. Reste à savoir si cette consultation va mobiliser en plein cœur de l'été.
Merci à vous Mélanie. La France a enregistré sur les 6 premiers mois de l'année plus de décès que de naissances, selon les données publiées aujourd'hui par l'INSEE. L'INSEE qui juge possible un solde naturel de population négatif sur l'année civile 2025, ce qui serait une première depuis 1944. Et si cette nuit vous leviez la tête et ouvriez grand les yeux, cette nuit c'est la 35e nuit des étoiles qui va durer jusqu'à dimanche. Plus de 500 manifestations sont prévues un peu partout en France, tout au long du week-end. La période de fin juillet à mi-août est la plus propice pour observer le ciel, et particulièrement les perséides, autrement dit des étoiles filantes. Ce week-end, on pourra en voir une centaine par heure, selon certains spécialistes. Mais comment faut-il s'équiper pour observer ces astres? Marion Ferrer vous dit tout.
Il y a évidemment les télescopes et les lunettes astronomiques, mais depuis quelques années, de nouveaux outils sont apparus, notamment des smart télescopes qui sont reliés à des téléphones ou des tablettes. Une observation indirecte qui permet de gommer les effets néfastes de la pollution lumineuse très présente en ville.
C'est comme si on vous demandait de lire un livre avec du beurre sur vos lunettes. Plus il y a de la pollution lumineuse, plus vous avez de beurre sur vos lunettes. Donc ça va être de plus en plus compliqué de voir les petits caractères qu'on va voir sur la page de votre livre. Bah, dans le ciel, c'est exactement la même chose. Il y a une couche de pollution pollution lumineuse qui va draper un peu le ciel et qui va nous empêcher de voir les objets les plus diffus.
Rémi Leblanc, messager et secrétaire de l'Association française d'astronomie.
Ces télescopes-là vont prendre des photos d'un objet dans le ciel et vont empiler les photos qui vont être prises par le smart télescope. Il va y avoir un traitement qui va être intégré pour justement essayer de compenser cette pollution lumineuse. Et par exemple, ça permet dans des endroits en centre-ville, par exemple, de pouvoir observer des nébuleuses ou des galaxies qu'on n'aurait pas du tout eu la possibilité d'observer avec une observation directe.
Ces télescopes sont mis à disposition gratuitement dans une cinquantaine de clubs ce week-end, durant lequel au total plus de 350 associations et collectivités sont mobilisées.
En fait, le but de cette soirée-là, c'est de permettre aux gens qui n'ont aussi pas du tout de matériel de venir essayer. Il faut être curieux et curieuse et de se dire que oui, on peut utiliser avec des gens qui nous apprennent et qui veulent nous montrer des choses dans le ciel.
Mais tous les passionnés le disent, le meilleur outil pour observer les astres reste les yeux. Il faut seulement s'éloigner des centres-villes et prendre le temps de lever votre regard vers le ciel.
Nuit étoilée qui vous attend, sauf dans l'est du pays qui va subir des orages. Nuit douce également, 14 à Brest, 24 à Perpignan. C'est la fin de cette édition préparée avec Caroline Benetot.